Donc vous avez pu remarquer que je suis très vieille. J'ai 50 ans. Moi j'aime bien savoir que j'ai 50 ans. C'est pas un secret, c'est comme ça. Les années passent pour chacune d'entre nous, donc je ne suis pas exception. J'aimerais mettre mes lunettes, puisque l'âge avance également, et les yeux vieillissent en même temps que moi. Vous m'entendez, ça va ? Très bien. Donc, j'aimerais d'abord commencer par remercier le comité qui m'a invité pour cette journée. C'est une joie, c'est un privilège, mais c'est un stress également de pouvoir partager cette parole de Dieu avec vous et de plonger les regards ensemble dans cette parole de Dieu. Et ma prière, c'est qu'ensemble, on puisse grandir et être encouragé dans notre foi, et que le Seigneur, qui transforme les cœurs, puisse agir encore aujourd'hui et nous transformer par ce qu'il veut nous dire. Être choisi par Dieu, et alors ? Ça, c'est le thème de la journée. Être choisi par Dieu, qu'est-ce que ça change ? C'est la question qui nous réunit aujourd'hui, et on va prendre le temps de réfléchir autour de cette question. Mais avant de répondre à la question « et alors ?», je propose qu'on réfléchisse d'abord à ce que ça veut dire « choisi par Dieu ». Ça veut dire quoi exactement d'être choisi par Dieu ? Et sur la base de quoi on est choisi par Dieu ? Est-ce qu'on est choisi sur la base de nos qualités morales ? Est-ce qu'on est choisi sur la base de nos qualités physiques ? Ou bien sur la base de nos qualités intellectuelles ? Ou sur nos qualités relationnelles, ou est-ce qu'on est choisi au hasard, après tout, sur la base d'une grande loterie, sans vraiment de critères. Et on va, pour répondre à cette question, ou à cette affirmation d'ailleurs, c'était une affirmation, plonger nos regards dans l'Épître aux Colossiens, qui va nous servir de guide pour réfléchir à cette affirmation. Cette lettre, elle a été écrite par Paul il y a très longtemps, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et elle ne nous était pas destinée à nous directement, mais elle contient les réponses à cette affirmation choisie par Dieu. On sait que la parole de Dieu, elle reste vivante et efficace, et que pour chacune d'entre nous aujourd'hui, elle va nous enseigner et elle va nous convaincre. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Je nous encourage à lire cette lettre que Paul a écrite aux Colossiens il y a de nombreuses années. Elle ne contient que 4 chapitres, elle se lit très facilement, elle est courte. On ne va pas faire ça ensemble, ne le faites pas maintenant, écoutez-moi, ça m'arrangerait. Mais elle est riche en enseignements et en applications pour notre vie pratique de tous les jours. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de réfléchir autour de simplement 2 passages. Ce matin, on va lire dans le chapitre 1, les versets 13 à 23, et cet après-midi, on lira les versets 1 à 17 du chapitre 3. Et on va partager ces temps d'enseignement en 2 temps. Je sais que Angie avait fait ça l'année dernière, j'ai regardé le programme, j'ai 1h45 ce matin, 1h45 à m'écouter, c'est beaucoup trop pour vous, je vous assure, mes enfants tiennent 5 minutes, donc voilà, vous aurez un peu plus. Mais on va donc partager ce temps en 2. Il y aura un petit moment d'enseignement où effectivement c'est moi qui vais parler, et après il y aura un temps de réflexion en groupe. Il y a des questions qui vous parviendront pour ce temps de réflexion, discussion en groupe, parce que je crois vraiment que, en fait, si on veut s'approprier ce qu'on entend et si on veut l'appliquer à chacune de nos vies, c'est bien de prendre le temps de discuter et de réfléchir ensemble. Et avant de commencer, j'aimerais prier. Seigneur, merci pour cette journée que tu as faite. Merci pour ce jour qui nous permet de nous rassembler tout ensemble. Merci aussi pour ta parole qui veut nous enseigner, qui veut nous corriger, qui veut nous convaincre, qui veut nous conforter, qui veut nous tenir, Seigneur, dans ces jours que nous vivons ici et qui ne sont pas toujours faciles. Je te prie que tu sois avec nous maintenant, que tu nous parles par ta parole. Et je te demande que vraiment je puisse être cet instrument dans tes mains. Qui exprime fidèlement ce que toi tu as voulu dire dans ces versets, Seigneur. Amen.
Amen.
Alors, avant de lire le texte, donc c'est 13 versets dans le, c'est 10 versets pardon, dans le chapitre 1. J'aimerais vous donner quelques mots de contexte qui concernent l'église de Colosse. Je ne sais pas comment me mettre. Colosse, c'est une ville qui se situe en Asie mineure, c'est-à-dire dans l'actuelle Turquie, et elle se situe à environ 160 km de la ville d'Éphèse. La population de la ville semble être mixte, puisque à l'origine, elle était composée de Phrygiens, c'est-à-dire des gens qui venaient de Phrygie, c'est un pays qui existait à l'époque et où se situait Colosse, mais des colonies juives et aussi des Grecs sont venus s'y installer. Il y avait donc des natifs, mais aussi des expatriés d'origine diverse, tout comme dans la plupart de nos villes aujourd'hui. En tout cas, là d'où je viens, il y a un mixte de populations, et donc c'est la même chose dans nos églises. On ne connaît pas grand-chose de cette ville, hormis ce que nous apprenons dans la parole de Dieu la concernant, c'est-à-dire pas grand-chose. L'évangile y a été proclamé, comme dans toute l'Asie mineure, à partir de la ville d'Éphèse, où Paul a séjourné pendant environ 3 ans au cours de son deuxième voyage missionnaire. L'église de Colosse a donc probablement été fondée pendant ce séjour de Paul à Colosse, qui est situé entre 53 et 56 après Jésus-Christ. D'après ce qu'on apprend dans la lettre, quand on la lit, cette église, elle a probablement été fondée par Épaphras, qui était formé par Paul, et qui a proclamé l'Évangile et a exercé des responsabilités. Ce qu'on apprend également dans cette lettre, quand on la lit, c'est que Paul ne s'est jamais rendu dans cette ville, et donc il ne connaît pas personnellement les chrétiens à qui il s'adresse quand il écrit cette lettre. Cette église de Colosse, on apprend également qu'elle entretient des liens étroits avec 2 autres églises locales, celle de Laodicée et celle de Hiérapolis. Elles sont proches géographiquement, mais elles sont également liées par Épaphras, qui a exercé également un ministère dans chacune de ces églises. Et je ne sais pas de quelle église vous venez, mais c'est un peu comme ça chez nous aujourd'hui. On a des liens étroits, et c'est d'ailleurs pour ça que vous vous réunissez aussi, entre les églises locales, et ce qui fait toute la richesse. À la fin de cette lettre, on voit que Paul demande aux frères de Colosse de saluer les croyants de Laodicée et de leur donner même cette lettre pour qu'elle soit lue à Laodicée. Cette lettre a été donc destinée à être lue par d'autres églises locales et elle nous est aussi adressée à nous aujourd'hui qui représentons les différentes églises locales d'où vous venez. Alors que Paul écrit cette lettre, il est en prison, environ en 60-62 après Jésus-Christ, et si je vous donne ces dates, c'est pas pour faire mon intelligence, c'est pour situer un petit peu la date, l'âge de l'église locale. Elle a environ 6-8 ans, cette église locale. Moi, mon église, c'est une vieille dame, elle a plus de 30 ans. Je ne sais pas quel est l'âge de votre église, mais voilà. Paul, il est averti par Épaphras de la situation dans laquelle se trouve cette jeune église. Elle fait face à des faux docteurs qui y ont introduit des idées non conformes à l'enseignement des apôtres. Donc Paul prend vraiment le temps de leur écrire pour leur rappeler l'objet de leur foi, le fondement de leur foi. Et ces croyants de Colosse ne sont pas les seuls à qui Paul prend le temps d'écrire pour rappeler le message de l'Évangile. L'église qui est à Philippe a aussi reçu un courrier de Paul, la lettre aux Philippiens, et il leur dit ceci: « Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous c'est une sécurité. » Aux croyants de Corinthe, à qui sont adressées les 2 lettres aux Corinthiens, il dit ça aussi. Il dit « Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, etc. » Paul martèle le message de l'Évangile et il encourage également ses disciples, que soient Timothée ou Tite, à faire la même chose. Alors pourquoi Paul prend le temps de rappeler à ces Colossiens qui semblent des croyants fermes dans la foi et dont les progrès semblent évidents ce message de l'Évangile? Pourquoi aujourd'hui on prend le temps de nouveau, je vais vous dire des choses, je suis sûre que vous le savez déjà. Pourquoi on prend le temps de se rappeler ensemble ce message de l'Évangile? Dans le cadre de Colosse, voilà ce que dit Paul au chapitre 2. Il nous donne la réponse de la raison pour laquelle il rappelle ce message de l'Évangile. au verset 1 de ce chapitre 2, il dit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Et un petit peu plus loin, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, selon les traditions des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. » On ne sait pas exactement quels étaient ces dangers que couraient les Colossiens et qui mettaient en péril le message de l'Évangile. Mais on sait que les discours séduisants sont partout autour de nous pour nous détourner de l'Évangile. Les Colossiens, tout comme chacune d'entre nous, on doit prendre le temps de sans cesse revenir au message de l'Évangile. Et dans les versets qui précèdent le passage qu'on va lire à partir du verset 13 maintenant, là, Paul prie pour les Colossiens et il demande à Dieu que chacun d'entre eux porte du fruit, que chacun d'entre eux grandisse dans sa connaissance de Dieu, que chacun d'entre eux persévère dans sa marche chrétienne et qu'ils soient des adorateurs reconnaissants. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite pour nous aujourd'hui, et tout cela n'est possible qu'à cause de l'Évangile. Et je vais maintenant lire les versets 13 à 23 du chapitre 1 pour réfléchir à cette affirmation choisi par Dieu. Et moi, je vais lire dans la version qui est dite à la Colombe, pour celles qui veulent suivre. Je lis à partir du verset 13. « Il, Dieu le Père, donc, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut, et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi fondée et établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Alors, avant de commencer, permettez-moi une petite illustration. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime la technologie dans la cuisine. Surtout la technologie qui me facilite la vie et me permet de cuisiner sans cuisiner. Alors non, j'ai pas le Thermomix, mais j'ai son homologue français, le Cook Expert. Mais vu que ce petit chef cuisinier a un certain coût, j'ai pris le temps de réfléchir et d'être convaincue de son utilité avant de l'acheter. J'ai pris le temps de me renseigner en allant explorer le net pour rechercher des blogs explicatifs, mais aussi pour rechercher l'avis d'autres personnes qui l'avaient déjà acheté. Je suis allée au magasin pour voir une démonstration de ses capacités et des différentes fonctions qu'il pouvait remplir. Une fois que je l'ai acheté, j'ai pris le temps de le découvrir, de lire le mode d'emploi et de lire toutes les recettes que je pouvais réaliser en un tour de main, ou pas d'ailleurs, grâce à lui. Et maintenant, ça fait quelques années que je l'ai. Je me rends compte que je l'utilise toujours pour les mêmes choses et que je suis loin de l'exploiter au plein potentiel de ce qu'il peut faire pour moi. Je dois prendre régulièrement le temps de relire le mode d'emploi, d'utiliser les différents ustensiles qui le composent et de relire les recettes possibles pour réaliser d'autres recettes de celles dont j'ai l'habitude de faire. Alors cette image, elle est bien imparfaite, bancale peut-être, mais elle me permet de vous introduire à notre passage et ce qu'on va faire ce matin. Paul s'adresse à des croyants qui ont entendu parler du Cook Expert et ils ont accepté avec joie d'investir financièrement dans son acquisition. Ils connaissent cet appareil électroménager miraculeux puisqu'ils l'ont acheté et ils l'utilisent régulièrement pour cuisiner. Cependant, par habitude d'utilisation, ils ont peut-être oublié toute l'étendue de sa capacité et de ses fonctions. Et ils ont besoin régulièrement de revenir au mode d'emploi, aux recettes et aux ustensiles pour se rappeler tout ce dont il est capable et l'utiliser selon son plein potentiel. Et on va également prendre le temps aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir le couple expert. Alors évidemment, ce n'est pas du tout ce que nous allons faire. Rassurez-vous, on n'est pas là pour des cours de cuisine. Et de toute manière, vous seriez mal barré avec moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir et redécouvrir ensemble le contenu de l'Évangile, le fondement de l'Évangile et l'espérance de l'Évangile afin de nous émerveiller ensemble de ce salut offert et de nous émerveiller par Dieu qui nous a choisis. Et on va faire ça autour de ces trois points que je viens d'énoncer. Le contenu de l'Évangile, et ça ce sera les versets 13 à 14 pour celles qui notent. Le fondement de l'Évangile, les versets 15 à 20. Et l'espérance de l'Évangile, les versets 20 à 21. Je relis les versets 13 et 14, le contenu de l'Évangile. Le Père nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ces deux versets résument de façon saisissante le message de l'Évangile. Tout n'est pas dit, mais il s'agit d'une description des plus renversantes de ce qu'est l'Évangile, et on va prendre le temps d'y réfléchir et de s'arrêter sur ces deux versets. Le sujet, celui qui agit, c'est Dieu. C'est lui qui met en œuvre la bonne nouvelle de l'Évangile. Il nous délivre d'une part et il nous transporte dans son royaume d'autre part, c'est-à-dire que littéralement, il nous fait changer de camp, d'endroit, de lieu. Et Jésus opère ce changement de royaume, ce changement de citoyenneté par la rédemption, le pardon des péchés en lui. C'est l'unique moyen pour accéder à ce royaume et Jésus est ce chemin. Il est celui qui nous fraye ce chemin par la rédemption et le pardon des péchés. Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Nous avons besoin d'être libérés du pouvoir des ténèbres. Alors de quoi s'agit-il ? C'est quoi ce pouvoir dont nous avons besoin d'être délivrés ? Dans la Bible, les ténèbres désignent le monde sans Dieu où règnent Satan et le péché, en opposition à Dieu qui est la lumière du monde. Je vous donne deux références. Jean 12, 46, on ne va pas les lire, et 2 Corinthiens 6, 14. Dieu vient nous délivrer du règne de Satan sur nos vies et de notre péché qui règne en nous. Péché, ça veut dire rater la cible. Ça veut dire manquer le but pour lequel nous avons été créés. Je vous redonne les références. Jean 12, 46 et 2 Corinthiens 6, 14. Et je reviens aux définitions. C'est bon ? Donc péché, ça signifie rater la cible, c'est manquer le but pour lequel on a été créé. Et quel est donc le but pour lequel on a été créé ? Je ne sais pas si vous connaissez le catéchisme de Heidelberg qui a été mis au goût du jour par Tim Keller. Vous y avez accès sur le site Évangile 21. Et la troisième question de ce catéchisme répond à la question. Comment et pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? Je vais vous lire la réponse. Dieu nous a créés, hommes et femmes, à son image, pour que nous le connaissions, l'aimions, vivions avec lui et le glorifions. Il est juste que nous, qui avons été créés par Dieu, vivions pour sa gloire. Voilà le but de notre vie. Mais en se rebellant contre Dieu, en rejetant son autorité dans nos vies, nous nous sommes coupés de cette relation intime voulue par Dieu lors de la création dans l'humanité avec Adam et Ève. L'humanité tout entière a quitté le royaume de Dieu par la désobéissance et elle est entrée dans le royaume des ténèbres où règne Satan, le péché et la mort. La Bible est très claire à ce sujet, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors que nous l'avions rejeté, Dieu vient en Jésus-Christ pour nous libérer du pouvoir des péchés et nous pardonner nos péchés. Il nous transporte dans son royaume, dans le royaume de son Fils. On passe du royaume des ténèbres, où Satan règne, au royaume de Dieu. On change de propriétaire. Et comment est-ce que cela est possible ? Par l'Évangile. En Jésus, on a le pardon des péchés, parce que Jésus nous a rachetés. Et c'est ce que disent ces deux premiers versets. Le mot grec utilisé pour rédemption, et qui a été traduit par rédemption dans ce passage, fait référence à la notion de rachat. Et pour les Colossiens, et pour tous les auditeurs du 1er siècle, cette idée d'être racheté par Dieu renvoyait pour eux l'image de l'affranchissement des esclaves, pardon, qui étaient souvent des prisonniers de guerre, et ils étaient affranchis par le paiement d'une rançon. Voilà ce que signifie la rédemption, le rachat. Dieu lui-même nous délivre du pouvoir du péché au moyen du Rédempteur, Jésus-Christ, Dieu lui-même. 1 Timothée 2,5 nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et comme on le voit un petit peu plus bas dans notre texte au verset 20, Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous rachète par son sang sur la croix. Le pardon de nos péchés, de notre rébellion contre l'autorité de Dieu dans notre vie, passe par la rédemption en Jésus-Christ. Jésus s'est donné lui-même en rançon pour nous racheter et nous délivrer du pouvoir des ténèbres auquel nous appartenions. Romains 3, que j'ai commencé à citer tout à l'heure, depuis le verset 23 jusqu'au verset 25, résume ce magnifique message de l'Évangile et je vais vous le lire. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Voilà le merveilleux message de l'Évangile. Dieu nous délivre de notre rébellion contre lui, du pouvoir du péché en prenant sur lui la punition méritée. Il nous sauve au moyen de la rédemption par sa propre vie, afin de nous permettre de vivre en sa présence, dans son royaume et d'être réconciliés avec lui. Le fondement de l'Évangile maintenant, les versets 15 à 20. Paul continue avec ses versets par un magnifique chant de louange à la gloire de Jésus. C'est un hymne, c'est une célébration de Jésus lui-même. Je vous relis ces versets. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et j'aimerais souligner juste trois caractéristiques qui ressortent de ce verset concernant Jésus. Premièrement, Jésus est l'image du Dieu invisible. Pardon. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est au sein du Père est celui qui nous l'a révélé. Et c'est ce qu'on va fêter dans quelques semaines maintenant. Hein. Moi, je suis sur Insta, je ne sais pas si vous êtes sur Insta, mais on voit hein, maintenant les décomptes qui commencent à arriver concernant Noël. En célébrant la naissance de Jésus à Noël, on va fêter sa venue sur la terre. Pendant environ 33 ans, Dieu a habité dans un corps d'homme et s'est approché de nous. Dieu s'est incarné. Il est devenu complètement homme tout en restant pleinement Dieu et il s'est laissé approcher. On peut connaître Dieu au travers de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même répond à un de ses disciples qui lui demande de voir Dieu par ses mots. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Hébreux 1, 3 nous dit que Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. il est le caractère, l'empreinte de sa substance. On a l'immense privilège, vous et moi, de pouvoir contempler Dieu face à face en Jésus, alors qu'on lit les quatre évangiles, alors qu'on lit la Bible dans son entier. En Jésus, Dieu se rend visible. Deuxième caractéristique, Jésus est le premier-né de toute la création. Jésus est décrit comme le premier-né de toute la création. Alors ce passage, il ne nous dit pas que Jésus est la première personne créée par Dieu, puisque Jésus est Dieu et on vient de le voir. En plus, juste après cette affirmation, le passage continue en affirmant que tout a été créé par Jésus et qu'il est avant toute chose. La notion de premier-né dans la Bible fait référence à un statut en tant que celui qui a la première place, la place la plus importante. Ça fait référence à sa position en tant que supérieur et plus élevé que quiconque. Il est le Créateur éternel en qui tout subsiste. Tout ce que nous pouvons voir, mais également tout ce qui est invisible, a été créé par Jésus et subsiste parce que Jésus soutient toute chose dans cet univers aussi vaste qu'on ne pourra jamais l'explorer. Il est celui qui règne sur ceux-là même qui règnent sur la terre, mais également sur ceux qui règnent dans le monde invisible. Il règne sur le plein prince des ténèbres, sur le monde des ténèbres dont il nous délivre. Rien n'échappe à son pouvoir, à son contrôle. Il n'y a rien au-dessus de sa suprématie et de sa toute-puissance. Dieu est maître de l'univers, du monde matériel, du monde immatériel et de toutes les créatures qui s'y trouvent. Donc, on a dit que Jésus était l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Et troisièmement, Jésus est le chef de l'Église. Après avoir décrit la pleine autorité de Dieu sur l'univers, Paul affirme la pleine autorité de Dieu sur son Église, sur tous les croyants. Nous pouvons avoir cette pleine confiance que c'est Dieu qui agit dans son Église. C'est lui qui bâtit cette Église, indépendamment des manquements ou des erreurs de nos dirigeants terrestres dans ces différentes Églises. On peut être réconforté par ça, parce que c'est cette puissante vérité qui nous est également rappelé en Éphésiens au chapitre 4, Dieu règne sur son Église. En dehors des efforts humains, l'Église, le corps de Christ, va croître à tous égards en Jésus qui est le chef. Et c'est de lui que l'Église tire son accroissement et qu'elle s'édifie. Il est la tête de l'Église également parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Alors encore une fois, cette notion de premier-né fait référence à sa victoire sur la mort, puisqu'il a pleinement autorité sur celle-ci. Dans la deuxième lettre que Paul écrit aux Corinthiens, on peut lire ceci, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Jésus est le chef de l'Église parce qu'il est celui qui dirige cette Église et parce qu'il est celui qui a donné sa vie pour elle, qui est ressuscité pour elle et qui lui montre le chemin vers la vie éternelle en lui. Voilà qui est notre Rédempteur, Jésus-Christ. Il est celui qui s'est rendu visible. Il est celui qui existe de toute éternité et qui a tout créé. Il est celui qui soutient cet univers infiniment grand. Il est celui qui règne, qui domine sur toute la création, qu'elle soit sur terre ou céleste. Toute la création. Il est celui qui est notre chef, qui dirige et fait grandir et veille sur son Église. Il est celui qui nous donne accès à l'éternité dans sa présence. Jésus, pleinement Dieu, détient la pleine autorité sur l'univers et la pleine autorité sur son Église. Jésus réconcilie pleinement le monde terrestre et céleste par son sang versé sur la croix. Toute la création sera un jour au bénéfice de cette réconciliation. Et cette réconciliation, dont nous sommes déjà pleinement au bénéfice, verra son apogée lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Jésus, est lui-même la bonne nouvelle, il est lui-même l'évangile. On passe à notre troisième point, l'espérance de l'évangile. Les versets 21 à 23. L'évangile, produit un profond changement dans notre statut devant Dieu. Et ce changement est possible grâce à la mort de Jésus sur la croix, qui nous permet ainsi d'être réconciliés avec lui. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble, l'espérance que nous donne l'évangile. Paul utilise une forme assez typique chez lui de l'avant-maintenant. Un peu comme dans ces magazines qui veulent nous vendre des produits miracles ou des méthodes infaillibles pour ceci ou pour cela. On a ces photos comparatives avant-après qui nous poussent à acheter tel ou tel produit ou à adopter telle ou telle méthode. Alors, on va regarder cette autrefois et maintenant dont il est question ici. Autrefois, étranger et ennemi par nos pensées et œuvres mauvaises, mais maintenant saint, sans défaut et sans reproche. Paul rappelle aux Colossiens ce qu'ils étaient alors qu'ils appartenaient au royaume des ténèbres. Étrangers, c'est-à-dire qu'ils étaient privés du droit de cité, du droit de citoyenneté dans le royaume de Dieu. Et ennemis, et ce terme va un tout petit peu plus loin. Nous étions des adversaires, des membres du royaume ennemi qui participaient à l'opposition spirituelle contre Dieu par nos pensées et nos œuvres mauvaises. Mais maintenant, les Colossiens, tous les croyants à leur suite, et nous-mêmes qui sommes croyantes, nous sommes devenus saints, c'est-à-dire qu'il nous a mis à part pour lui. Nous sommes devenus sans défaut, c'est-à-dire irréprochable dans le sens de sans tache pure. Nous sommes devenus sans reproche. En vertu de l'œuvre de Jésus-Christ, nous ne pouvons plus être accusés, nous sommes sans reproche. Et tout ça est possible grâce à l'œuvre de réconciliation en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. On a définitivement changé de statut. Alors, quelle est la responsabilité des Colossiens dans tout cela ? Quelle est ma responsabilité et quelle est ta responsabilité ? Le verset 23 donne la réponse. Nous devons demeurer fermes dans la foi, dans le sens de rester, de persister, de persévérer dans la foi. Nous devons être fondés, inébranlables dans notre foi. Et le même mot « fondé » est utilisé en Matthieu 7 lorsque Jésus parle de cette maison qui est fondée sur le roc et qui ne s'ébranle pas et qui résiste au vent et aux torrents causés par la pluie. Et enfin, nous devons être établis, nous devons être fermes, solidement assises, sans dévier. Romains 10, au verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est reconnaître que tout ce que Dieu dit dans sa parole est la vérité. C'est lui faire confiance, le recevoir et se reposer sur ce qu'il a fait pour nous sauver. La foi, c'est recevoir l'évangile qui nous est offert en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. C'est s'appuyer sur Jésus et sur sa parole en lui faisant confiance en tout et pour tout. Dans sa souveraineté, Dieu nous réconcilie et nous préserve pour être saints, sans défaut et sans reproche. Notre responsabilité est donc de persévérer, de demeurer ferme et inébranlable. Je conclus. Choisi par Dieu, 1000 fois oui, mais jamais, jamais sur la base de ce que nous sommes ou nous faisons. Et si je peux me permettre, et j'espère que vous n'allez pas me lancer de tomates, le piège subtil de cette formulation pourrait être de nous faire croire que, tout comme les princesses enfermées dans leur tour d'argent, nous méritons qu'un beau chevalier sur son cheval blanc vienne nous délivrer de ses ennemis qui nous entourent. Mais nous n'avons aucun mérite. Nous ne sommes pas des princesses. Nous étions étrangères et ennemies par nos pensées et nos œuvres mauvaises. Choisis par Dieu, mais oui, mais 1000 fois oui. mais uniquement sur la base de l'évangile, du sacrifice de Jésus sur la croix, qui par son sang versé à notre place, nous rend saints, sans défaut et sans reproche. Il est au centre du salut, il est notre salut, il est celui qui agit, il est celui qui paye le prix, il est celui qui nous réconcilie et nous donne cette espérance de la vie éternelle avec lui dans son royaume. Tout est en lui, tout est par lui et tout est pour lui. Demeurons fermes dans l'évangile qui nous a été transmis. Et j'aimerais proposer deux applications maintenant, une sous forme d'encouragement et une sous forme de défi face à cet évangile. Encouragement parce que Dieu s'est approché de nous. Le salut est accessible pour tous en Jésus-Christ et cela ne dépend pas de nous. Il a tout accompli alors que nous étions ennemis et étrangères. Il nous a choisis. Alors toi qui as mis ta foi en Jésus, qui crois, comment ne pas tomber à genoux et remercier encore et toujours Dieu ton Père, mon Père, qui nous a rachetés en Jésus pour faire de nous ses enfants saints, sans défaut et sans reproche. Pour toi qui as été invité par une amie et qui entend cette bonne nouvelle pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la xième fois, je t'encourage à réfléchir à quel royaume tu souhaites appartenir. Dieu te tend le bras. Il t'ouvre les portes de son royaume par son Fils, Jésus-Christ. En qui, par qui et pour qui, tout existe et tout subsiste, y compris toi-même. Et maintenant, un défi face à cet évangile. Ce défi de rester fermement attaché à l'objet de notre foi et à l'évangile, sans rien ajouter et sans rien retrancher. Pour toi, encore une fois, qui crois à ce message de l'évangile, prends garde de rester fondé, de persévérer dans l'enseignement de la parole. Prends le temps régulièrement de la lire, de la méditer, de l'étudier et de revenir régulièrement à ce merveilleux message qu'est l'évangile. Dieu a tout accompli. Pour toi qui doutes de cet évangile, quelles sont les raisons pour lesquelles tu doutes? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que c'est trop difficile de croire qu'on n'a rien à accomplir pour mériter ce salut? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu doutes? Je t'invite à prendre le temps d'y réfléchir et de relire ce texte de Colossiens. Et pour toi qui ne crois pas à ce message de l'évangile, sur quoi est fondée, sur quoi est établie ta vie? Sur quel fondement bâtis-tu? Et quelle est la solidité de ces fondements en comparaison de l'évangile? J'aimerais juste prier avant de continuer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet évangile que tu nous rappelles au travers de ces versets. Merci parce que c'est toi qui as tout accompli. Merci parce que c'est par toi qu'on peut avoir accès à Dieu. Merci parce que tu t'es rendu visible. Et on peut te voir face à face dans ta parole, Seigneur. Merci parce qu'on a cette assurance que c'est toi qui as la pleine autorité sur ce monde dans lequel nous sommes. Merci parce que tu as cette pleine autorité dans les églises que nous fréquentons. Merci parce que tu diriges toutes choses. Merci parce qu'on a cette espérance qu'un jour on sera avec toi pour l'éternité. Et merci parce qu'en attendant, tu es là avec chacune d'entre nous. Merci parce que si nous existons, si nous vivons, c'est parce que tout est par toi. C'est parce que tout est en toi. Et nous aimerions que tout soit pour toi dans nos vies, Seigneur. Amen. Je vous propose maintenant un temps de réflexion. Il y a Lucie qui va vous distribuer des questions. Alors, je ne savais pas qu'on serait déjà à table. Donc, peut-être ça va faciliter ou pas les groupes. Moi, je vous propose de vous mettre en petit groupe de discussion, peut-être 4, 6 grand maximum, pour que tout le monde ait le temps de parler. Et on a comme ça, je ne sais pas quelle heure il est moins de quart. Je pense une... Je ne sais pas où t'as quelle heure on a, merci.
Clarinette,
je donne le temps passé.
J'ai compté, en principe, c'est bon.
D'après le programme, Alors, mesdames, encore 5 minutes, comme mes enfants, les 5 dernières minutes, s'il vous plaît. Sur ces feuilles, elles sont individuelles. Il y a les questions de réflexion pour ce matin et il y a aussi les questions de réflexion pour cet après-midi. Alors, évidemment, les questions de réflexion pour cet après-midi, c'est pour cet après-midi. On a apparemment, d'après le programme, Lucie, jusqu'à moins le quart, jusqu'à 11h45.
Oui, oui. Ouais. Mais il y avait...
Oui, c'était... on va remettre en commun.
Mais oui, en commun avant. Avant.
Dans
oui.
le temps, oui. Ouais. Donc, moi, je vous propose que vous discutiez entre vous jusqu'à 11h20. Et à 11h20, on mettra en commun. C'est-à-dire que si vous avez envie de partager ce que vous avez discuté dans vos groupes, on le fera ensemble. Voilà. Est-ce que c'est clair? Sûrement. Merci. Jusqu'à 11h20, donc une grosse demi-heure.
D'accord.
Et après, on a encore. Comme ça, après, on a. Parce que 11h20, mais le temps que tout le monde. Voilà, ça prend 5-10 minutes toujours. Et après, on a un gros quart d'heure aussi pour mettre en commun s'il y en a. Et puis, s'il y a rien, il n'y a rien. Ça va comme ça?
Oui, et comme ça, midi moins le quart. Très bien.